Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Au début de notre service ce matin, je vous ai fait la lecture à partir du premier chapitre d'Éphésiens. J'aimerais vous inviter, si vous voulez bien, à ouvrir votre Bible à ce chapitre, étant donné que nous partageons certaines des grandes vérités extraites de cette portion des Écritures, en commémorant le 25e anniversaire de notre Église. Éphésiens chapitre 1. L'Église de la communauté de la grâce est unique. Tout au long de l'année, elle a fait l'objet de beaucoup de discussions parmi les gens, les pasteurs, les dirigeants, les laïcs, et même le monde extérieur. Des magazines ont écrit des articles à notre sujet. Plusieurs étudiants en année de doctorat ont rédigé leurs thèses sur notre Église. Les rapports, les séminaires, les journaux, les revues, les cassettes audio, les livres, tout cela a été entrepris pour analyser l'Église de la communauté de la grâce. Nous avons été disséqués, examinés, étudiés, étiquetés, catégorisés, scrutés, copiés, bénis, maudits, défendus, ignorés, récompensés, publiés et même traduits en justice. Qu'est-ce qui a provoqué toute cette attention? Pourquoi l'Église de la communauté de la grâce attire-t-elle autant d'intérêt? L'Église de la communauté de la grâce est devenue un refuge, un foyer, un havre pour ceux qui sont dans le besoin, une famille pour les nécessiteux, ceux qui sont seuls, une école pour ceux qui sont sans éducation, une forteresse pour ceux qui ont peur, une porte ouverte pour ceux qui sont exclus, offrant l'amour aux mal-aimés, la paix pour ceux qui sont dans le chaos, l'acceptation pour ceux qui sont rejetés, le pardon pour les coupables, l'espoir pour les désespérés, apportant la lumière dans les ténèbres, donnant la vie en échange de la mort. Je me souviens lorsque je suis venu ici pour la première fois, en février 69. La plupart des gens portaient un t-shirt. Et sur ce t-shirt, il était dit « Grâce, c'est là où ça se trouve ». Au cours des années, les gens ont tenté de comprendre ce que c'est qui se trouve à Grâce. Pourquoi est-ce que cet endroit est si spécial? Pourquoi est-il unique? Pourquoi cela fait-il l'objet de tant d'intérêt? Et pourquoi est-ce le canal de tant de pouvoir? Eh bien, je pense que la clé pour comprendre l'Église de la Communauté de la Grâce et ses impressionnantes 25 années d'histoire ne consiste pas à analyser ses pasteurs, ni son personnel, ses programmes, ses méthodes, ses dirigeants, ses anciens, sa congrégation, sa croissance, sa taille, sa localisation. Bien que tout cela soit essentiel à ce qu'elle est, ils ne sont pas réellement la clé. La véritable clé, et je pense que cela peut tout simplement être réduit, consiste à comprendre ce que Grâce est de par son nom. Je pense que tout est révélé à ce niveau. Et je ne crois pas que c'est dans le mot « grâce », bien que ce soit un mot merveilleux. Mais il existe également une société de pétrole de la grâce, et une compagnie maritime de la grâce, et une société d'investissement de la grâce, et, pouvez-vous le croire, une société de fabrication de fertilisants de la grâce. Et je suis plutôt certain que cela ne réside pas dans le titre « communauté », étant donné qu'il existe une myriade d'agences communautaires. La clé de notre identité réside dans ce premier mot « Église ». C'est cela. Cela résume tout ce que nous sommes. Nous ne sommes pas le club de la communauté de la grâce. Nous ne sommes pas la société de la communauté de la grâce. Nous ne sommes pas le centre de loisirs de la communauté de la grâce. Nous ne sommes pas la crèche de la communauté de la grâce. Nous ne sommes pas l'association de développement personnel de la communauté de la grâce. Nous ne sommes pas l'association de développement personnel de la communauté de la grâce. Nous ne sommes pas l'école de la divinité de la communauté de la grâce. Nous ne sommes pas le centre de convention de la communauté de la grâce, le théâtre ou le cinéma de la communauté de la grâce. Et nous ne sommes pas non plus le centre d'inadaptation psychologique et religieux de la communauté de la grâce. Nous sommes l'Église de la communauté de la grâce. Et c'est ça la clé. C'est pour cette raison que le monde a tant de mal à nous comprendre, puisqu'ils ne comprennent pas ce qu'est une Église. Ce terme nous distingue de toute autre institution humaine. Et si vous comprenez vraiment le terme Église, vous comprenez les 25 années d'histoire à cet endroit particulier. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ, rachetée par son propre sang. Aucune autre institution au monde n'est d'une quelconque manière comparable à l'Église. Et si nous parvenons à comprendre ce que c'est que d'être une Église, alors nous pourrons comprendre ce que nous sommes, ce que nous avons été, et ce que nous continuerons d'être. Maintenant, lorsque je dis le mot « Église », juste le terme en lui-même ne fournit pas ce qu'on a besoin de savoir sur ce qu'il signifie. En fait, le mot « Église » a, en quelque sorte, perdu sa richesse profonde. Lorsque nous prononçons le mot « Église », nous pensons habituellement aux briques et aux mortiers, et un bâtiment au coin, ou sur une rue quelque part. Ou alors nous pensons l'Église en tant qu'un ordre hiérarchique, une institution d'une certaine nature. Nous avons vraiment perdu la richesse du mot « Église ». Nous devrions nous sentir très mal. La plupart des langues, d'une certaine manière, perdent le sens de ce par quoi elles désignent le corps du Christ. J'ai lu cette semaine qu'en japonais, coréen et chinois, il existe la même racine pour le terme « Église » dans les trois langues. Et cela signifie un centre d'enseignement où les gens se regroupent dans une salle de classe pour recevoir les cours que donne un enseignant religieux professionnel. Eh bien, une église ne peut pas être vraiment définie comme un bâtiment, au milieu d'un bloc ou dans un coin, ni comme un centre d'enseignement où les cours seraient dispensés par un enseignant religieux. Par conséquent, les termes en eux-mêmes ne nous aident pas. Nous devons considérer leur arrière-plan. Revenons donc en arrière. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le mot « Église » employé à plusieurs reprises. Il constitue fondamentalement une traduction d'un mot grec, « Ecclesia ». Dans un certain sens, j'aurais aimé que les traducteurs anglais se contentent de translittérer et nous donnent le mot « Ecclesia » afin que nous disposions d'un terme unique. En tout cas, il est issu d'une racine verbale « kaleo » qui veut dire « appeler »,« appeler ». Et il y a un très bon mot pour ce que nous sommes. Nous sommes les appelés. En fait, je pense que nous sommes merveilleusement définis à la fin de Romains 8, 28. Nous sommes ceux qui sont appelés selon son dessein. L'Église peut être mieux comprise comme ceux qui sont appelés. C'est ce que nous sommes. Nous sommes l'assemblée des appelés. Nous sommes la communauté de la grâce des appelés. Nous sommes un groupe convoqué ensemble par Dieu pour son dessein. Nous ne sommes pas une organisation humaine. Nous ne sommes pas le résultat de l'ingéniosité humaine ou du pouvoir humain. Nous n'avons pas été édifiés par des gens bien, religieux. Nous sommes appelés à l'existence par Dieu. Nous sommes la congrégation de ceux qui sont appelés ensemble par Dieu. Telle est notre définition. C'est notre identité. L'Église, bien-aimée, n'est donc pas le sujet de la phrase. L'Église constitue l'objet de la phrase. Nous sommes les appelés, et Dieu est celui qui appelle. Quand les gens me demandent, et ils me demandent tout le temps, « Comment nous avons construit l'Église de la grâce ?» Je leur donne la même réponse. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Et cela ne semble pas les aider. Ils veulent savoir, « Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment puis-je prendre ce que vous avez fait et en faire ce que vous voyez en termes de résultats dans ma propre localité ? Comment puis-je reproduire ce que vous avez ? Comment puis-je faire cela ?» Mais le problème, c'est que nous sommes ce que nous sommes, parce que Dieu nous a appelés à l'être, non pas parce que nous sommes faits de ce que nous sommes. Nous sommes les appelés. Ceci est souligné tout au long du Nouveau Testament. Si vous regardez, par exemple, Romains, chapitre 1, juste pour un moment, vous trouverez là, au verset 6, ce que Paul dit, en écrivant à l'Église de Rome, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. C'est la meilleure définition de l'Église, les appelés de Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Dans 1 Corinthiens, vous entendez la même chose à l'intention de l'Église corinthienne, au verset 2 de 1 Corinthiens 1. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et puis écoutez ceci. Et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, quiconque, en quelque endroit que ce soit, invoque le nom du Seigneur Jésus, est un appelé. Il est appelé saint. Nous avons été appelés ensemble. dans 1 Corinthiens 1:26. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Et il poursuit en décrivant la nature de la composition de l'Église. Dieu vous a appelé à l'existence. Vous trouvez dans Éphésiens chapitre 4, verset 1. Moi qui suis prisonnier, à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Version Sommer. Verset 4. Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Vous trouvez de même dans 1 Thessaloniciens 2:12. Vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. 2 Timothée 1:9. Dieu qui nous a sauvés et nous a dressé une saine vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et cela continue ainsi. En fait, ce terme apparaît dans les Écritures, que ce soit sous la forme de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, plus de 700 fois. L'Église est mieux identifiée en tant qu'appelée, ceux qui sont appelés selon son dessein. Pierre reprend la même chose en 1 Pierre chapitre 5 et verset 10, et en essence dit exactement la même chose que Paul. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Nous sommes appelés de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes ce que nous sommes, et cela explique ce que nous sommes de manière fondamentale. Maintenant, s'il y a quelque chose que je crois au sujet de cette Église, s'il y a quoi que ce soit, la base de tout, je crois que cette Église est appelée à l'existence par Dieu lui-même. Et je crois que ce que nous le sommes parce que Dieu a ordonné que nous le soyons. Ce n'est pas lié à l'expression du génie religieux d'un homme ou au charisme de quelques dirigeants, ni au pouvoir d'un discours persuasif ou à l'affluence de nos membres, l'efficacité de nos infrastructures, la sagesse de nos comités, nos programmes, le résultat d'un dur labeur ou de l'intelligence. C'est l'œuvre de Dieu. Cette Église n'a jamais été conduite par des hommes. Elle a seulement été servie par des hommes. Elle a toujours été conduite par Dieu, à travers la Seigneurie de Jésus-Christ, médiée par le Saint-Esprit à travers la parole, dans la vie de personnes obéissantes. C'est l'Église du Christ. Et je vous le confesse, j'aime beaucoup le nom de l'Église de la Communauté de la Grâce. Cependant, si je devais choisir un nom d'Église, j'appellerais une Église l'Église du Christ, afin que personne n'ait à se demander à qui elle appartient. C'est son Église. Il l'a construit. Il est celui qui l'appelle. Nous sommes les appelés. Maintenant, ce fait, bien-aimé, explique toute notre bonté, tout notre succès, tout notre pouvoir, toute notre bénédiction et toute notre richesse spirituelle. Ça explique tout cela. D'un autre côté, puis-je m'empresser d'ajouter, la faiblesse et les échecs de notre Église sont expliqués par le fait que Dieu a choisi d'œuvrer à travers les agences humaines. Lorsque nous réussissons, c'est lui, pas nous. Lorsque nous échouons, c'est nous, pas lui. Partout où Dieu se déplace, les fleurs s'épanouissent. Partout où nous marchons, elles meurent. Et c'est pourquoi il est si difficile de nous analyser. Un séminaire avait l'habitude d'amener ses étudiants ici pour nous analyser. Et ils ont arrêté de le faire, parce que cela embrouillait les étudiants. Étant donné que nous ne correspondions pas au modèle standard, ils ne parvenaient pas à comprendre comment les choses se produisaient, sans suivre certaines procédures. Vous savez pourquoi il est difficile de nous analyser. C'est facile d'analyser nos échecs. Ils sont humains. Personne ne se préoccupe de les analyser et de les reproduire. Il est presque impossible d'analyser notre succès, parce que ça, c'est surnaturel, et on ne peut pas y arriver. Ainsi, lorsque nous réussissons, c'est lui, et lorsque nous échouons, c'est nous. Ce que je dis, c'est que pendant 25 ans, l'Église de la Communauté de la Grâce n'a été bénie que lorsqu'elle a pleinement fonctionné comme le peuple que Dieu a appelé, non pas une quelconque organisation humaine. L'unique grand objectif de cette Église est de permettre à Dieu d'œuvrer, laisser Dieu être actif, laisser Dieu construire son royaume, bâtir son Église et libérer la voie pour lui à travers notre soumission obéissante à sa parole et à son esprit. Nous sommes ceux qui sont appelés. À présent, regardez avec moi Éphésiens, chapitre 1, et je pense peut-être pouvoir au moins commencer à remplir votre esprit d'une compréhension de ce que cela veut dire, être appelé ou être l'Église, tout simplement en prenant le mot « appelé » et en y ajoutant une série de prépositions, qui sont tous mentionnées dans le premier chapitre d'Éphésiens, versets 3 à 14. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Éphésiens 1, c'est parce que ce chapitre, plus que n'importe quel autre, donne la définition de l'Église de manière théologique, et aussi parce que c'est un chapitre qui s'est avéré tellement bénissant au fil des années d'études dans lesquelles nous nous sommes engagés, ici à Grasse. Commençons par le point de départ. Premièrement, nous sommes appelés avant. Rappelez-vous, nous sommes les appelés. C'est ce que signifie l'Église. Et la première chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes appelés avant. C'est notre élection. Et en passant, vous pouvez regarder votre plan dans le bulletin, si cela vous aide à suivre. Mais remarquez le verset 4. En parlant de l'Église, Paul écrit « Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Au verset 5, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Verset 11, « Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, il nous a choisis par sa volonté, par sa propre volonté, avant la fondation du monde. » Bien-aimés, nous sommes appelés avant. Ce n'est pas quelque chose qui arrive juste comme ça. Ce n'est pas quelque chose que les hommes construisent par leur propre sagesse, ou ingéniosité, ou promotion, ou publicité, ou autre. Cette Église, comme l'Église dans sa globalité, est le résultat de l'appel prédéterminé, souverain de Dieu, avant la création. Dans 2 Timothée, il y a un verset que j'ai mentionné plus tôt. Je vais juste le relire. Il dit « Dieu qui nous a sauvés et nous a dressé une saine vocation, non à cause de nos œuvres, 2 Timothée 1:9, mais selon son propre dessein et selon la grâce, écoutez ceci, qui nous a été donné en Jésus-Christ avant les temps éternels. Nous avons été appelés avant, nous avons été choisis par Dieu, pour Dieu, avant le commencement du monde. De ce fait, c'est difficile, n'est-ce pas, de mettre tout cela dans un petit paquet et de le distribuer autour de nous. Le caractère unique de cette Église est lié dans l'appel souverain de Dieu avant le commencement du monde. Nous sommes ce que nous sommes à cause du choix souverain, indépendant, non affecté de Dieu. George Chadwick a dit « J'ai cherché l'Éternel, et après coup je savais qu'il avait amené mon âme à le chercher, tandis qu'il me cherchait. Ce n'est pas moi, ô sauveur fidèle, qui t'ai trouvé. Non, j'ai été trouvé par toi. Si vous êtes à l'Église de la Communauté de la Grâce, vous ne nous avez pas trouvés, mais Dieu vous a trouvés, et vous êtes ici par rendez-vous divin, tout comme moi. C'est pour cette raison que nous sommes ce que nous sommes. Nous accomplissons une destinée prédéterminée, une vocation qui vient de l'au-delà de l'espace et d'avant le temps. Nous sommes appelés avant le commencement du monde. Vous voyez, dans la pensée consciente de Dieu, il n'y a pas de temps, et tout est dans le présent éternel et immédiat, et avant le commencement du monde, nous étions aussi réels pour lui que nous le sommes maintenant. Dieu ajoute à cette Église ceux qu'il a déterminés avant le début du monde seraient ajoutés à cette Église. Pensez-y. Lorsqu'il ne restait plus que 8 personnes sur terre, il avait noyé tous les autres. Dieu savait que des reins de ces 8 individus allaient sortir les pasteurs et les dirigeants, et les gens de cette Église, et il savait que cela allait constituer un symbole dans la manière dont c'est assemblé. Je regarde à mon enfance, et je dois reconnaître qu'il est de plus en plus difficile de voir tous les moments, au fur et à mesure qu'il s'éloigne. Mais je regarde à mon enfance. Je pense à ma mère, qui avait prié que Dieu lui donne un fils qui prêcherait. Et puis, quand je suis né, elle a continué de demander à Dieu. « Est-ce celui-ci ? Tu auras du travail à faire, Seigneur, si c'est bien celui-ci. » En traversant des années pleines de difficultés, je ne sais pas où j'allais dans la vie. Oh, lorsque j'étais un petit enfant, je me tenais souvent sur une boîte de savon dans le jardin, et je prêchais à mes sœurs. Mais ça, c'était parce que j'imitais en quelque sorte mon père. C'est ce que je l'ai entendu faire, et j'ai traversé la vie. Quelquefois, j'ai presque perdu la vie. Une fois, je suis tombé d'une falaise près de Forest Home. Une fois, un accident de voiture m'a presque ôté la vie. Dieu m'a épargné les 2 fois, brisant ma propre volonté humaine, mes propres désirs, planifiant ma course à travers les années. Dieu savait exactement là où j'allais être, et tout ceci avant que le monde n'ait commencé. Vous savez, cela me donne un si grand sentiment de confiance, de savoir que ma place est à cet endroit, dans ce petit morceau de l'histoire, l'histoire rédemptrice, et c'est aussi votre cas. Je faisais partie du personnel du séminaire Talbot avant d'arriver ici, et 3 mois avant d'être contacté pour venir ici et être considéré comme un potentiel candidat au poste de pasteur. Une autre église m'a appelé. À cette époque, c'était une plus grande église, une église connue, une église merveilleuse. Et ils m'ont appelé et ont dit, nous souhaiterons discuter avec vous de la possibilité d'être notre pasteur. Et nous avons donc commencé à parler. Et nous avons parlé pendant une période d'un mois, et ainsi de suite. Et finalement, après toutes ces conversations, ils m'ont dit « Vous savez, nous avons l'impression que vous êtes trop jeune et trop peu expérimenté pour notre Église, et nous allons chercher quelqu'un d'autre. » Eh bien, j'étais ouvert à tout ce que le Seigneur voulait que je fasse, si c'était là que Dieu voulait me placer. J'étais déçu, mais ce n'était pas là que Dieu me voulait. Le plan n'était pas que je sois là-bas, le plan était que je sois ici, et, avant la fondation du monde, Dieu savait qu'il allait utiliser cette Église pour racheter des âmes, et que je ferais partie de ce processus. Nous sommes tous ici, bien-aimés, tout simplement pour un temps comme celui-ci. C'est le destin. Chaque fois que j'entends dire que quelqu'un est sauvé dans cette Église, quelque chose me vient à l'esprit. C'est un autre accomplissement du destin prévu par Dieu. Et ceux d'entre vous qui ont rejoint notre Église, et cela fait maintenant 13 ans que je vais à la réunion des nouveaux membres, et je ressens toujours la même chose au-dedans. Ces gens ne sont pas là par hasard. L'Éternel bâtit son Église. Chacun d'entre vous est ici, parce que vous êtes là, du fait de son plan souverain. Cela me libère d'une énorme pression. Je n'ai pas à bâtir l'Église, vous le savez. En fait, un reporter m'a interrogé il y a quelques années. Il a dit « Avez-vous un grand désir de construire l'Église ?» J'ai dit « Je n'ai aucun désir de construire l'Église, absolument aucun. » Il était surpris. Il a dit « J'ai parlé à d'autres pasteurs à travers le pays. Ils ne répondent pas de cette manière. » J'ai dit « Je n'ai aucun désir de bâtir l'Église. » Il a dit « Pourquoi ?» J'ai dit « Parce que Christ a dit qu'il bâtirait l'Église dans Matthieu 16, et je n'ai certainement pas envie d'être en compétition avec lui. Je veux seulement faire partie de ce qu'il construit, c'est tout. C'est son Église. Ceci n'est pas le résultat d'un quelconque esprit brillant, ni d'une organisation humaine. Il s'agit de l'Église du Christ. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne pouvez pas nous comprendre. Et vous savez ce que cela fait pour moi ? Il n'y a aucun sentiment de panique dans le ministère. Il n'y a pas de sentiment de frustration. Il n'y a aucune raison de rechercher les moyens mondains, ni une promotion mondaine, ni des systèmes mondains pour tenter de stimuler les choses. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se reposer dans l'Esprit de Dieu, se montrer fidèle à donner sa vie en soumission à Jésus-Christ. Il bâtira son Église. Je n'ai jamais voulu le faire de manière artificielle, parce que j'avais peur que cela ne soit mon Église plutôt que la sienne, et que je ne sois pas capable de faire la distinction. Les mots me manquent pour exprimer le sentiment très spécial que j'éprouve dans mon cœur en sachant que Christ a bâti son Église et que j'en fais partie, tout comme vous. Ce modeste petit morceau de l'histoire rédemptrice est notre destinée. Par conséquent, nous avons toujours mis, à l'Église de la Grâce, une grande emphase sur la souveraineté de Dieu. Nous sommes son Église, ce qu'il a appelé avant la fondation du monde. Deuxièmement, nous ne sommes pas seulement appelés bien avant, nous sommes appelés hors. Nous sommes appelés à sortir. C'est notre rédemption. D'être appelé bien avant constitue notre élection. Être appelé hors est notre rédemption. Il est dit au verset 7 que c'est en Christ que nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Ensuite, il est dit plus loin au verset 13, « Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Et Paul identifie l'Église dans ce passage comme ceux qui ont été rachetés, ceux qui ont été pardonnés, ceux qui ont reçu la grâce, ceux qui ont entendu la parole, ceux qui ont été sauvés parce qu'ils ont cru. L'Église est, par conséquent, appelée hors. Il s'agit d'un groupe racheté, régénéré. Que voulez-vous dire par appeler hors ? Appeler hors du péché, appeler hors de la mort, appeler hors des ténèbres, appeler hors du désespoir, appeler hors de la perdition, transférer, Colossiens 1:13, de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils de son amour. Romains 6 nous dit que nous étions impliqués dans la mort et nous avons été appelés à en sortir pour entrer dans la vie. Nous sommes appelés hors du monde. Nous sommes une communauté rachetée. Nous sommes régénérés. C'est l'unique raison pour laquelle nous sommes la véritable Église. Si nous ne sommes pas rachetés, alors nous ne sommes pas une Église. Des gens qui courent ça et là sous une bannière religieuse avec le titre Église et qui ne sont pas rachetés ne sont pas l'Église. L'Église, c'est ceux qui sont appelés hors du monde, hors du péché, hors du royaume des ténèbres. Maintenant, nous réalisons que la grande attention de l'Église doit être mise sur des membres régénérés, des personnes rachetées. Je veux dire, c'est ça l'Église. Il y a des églises un peu partout qui portent le nom selon lequel elles seraient vivantes, alors qu'elles sont mortes. Il n'y a pas de gens régénérés là-bas. Ce n'est pas une église. Ils ne sont pas appelés or. Ils font partie du monde. Ils sont tout simplement religieux. Et vous savez, ceci est tellement important pour moi que le premier dimanche que j'ai passé ici, j'ai prêché à ce sujet. Le tout premier service au cours duquel j'ai prêché en tant que pasteur de cette église, en février 1969. Mon texte était Matthieu 7, 21 à 23. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur !» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi !» Maintenant, certaines personnes pourraient penser, « Eh bien, vous auriez quand même pu vous échauffer un tout petit peu avant de nous frapper entre les deux yeux. Mais voyez-vous, je craignais qu'il y ait des gens qui s'imaginent faire partie de l'Église alors qu'ils n'étaient pas l'Église. Et il faut comprendre dès le départ ce qu'est l'Église pour savoir où on va. Nous sommes un groupe qui a été appelé or. Et je me souviens avoir prêché ce serment. Plusieurs couples ont quitté l'Église, y compris au moins un ancien, qui n'était pas chrétien. Je leur ai dit, vous devez faire la distinction entre le blé et l'ivré, l'authentique et le faux, ce qui joue à être l'Église et ce qui constitue l'Église. En fait, le titre de ce premier sermon était « Comment jouer à être l'Église ?» Et j'ai cité Luc 6,46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ? Et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et je leur ai lu une vieille gravure de Dahl de la cathédrale de Lebach, en Allemagne, et voici ce qu'elle disait. « Ainsi parle Christ notre Seigneur, à notre intention. Vous m'appelez Maître, et ne m'obéissez pas. Vous m'appelez Lumière, et ne me voyez pas. Vous m'appelez le chemin, et ne m'empruntez pas. Vous m'appelez la vie, et ne me vivez pas. Vous m'appelez sage, et ne me suivez pas. Vous m'appelez juste, et ne m'aimez pas. Vous m'appelez riche, et ne me demandez pas. Vous m'appelez éternel, et ne me cherchez pas. Si je vous condamne, ne m'en voulez pas. » Et ensuite, j'ai donné une illustration. La première illustration que je n'ai jamais donnée ici. Il y avait un vieux pasteur, si vieux, qu'il avait été contraint de prendre sa retraite. Sa voix était cassée par des années de prédication. C'était un vieux gentleman, humble. Il a été invité à un déjeuner de la haute société par un ami. Franchement, il n'était pas du tout à la hauteur. Cependant, il y est allé. Il s'y trouvait un acteur célèbre, et celui qui présidait le déjeuner a dit à l'acteur, au milieu de toute la fête, « Voulez-vous bien vous mettre debout et réciter quelque chose pour nous ?» Et il a dit, « Mais oui, bien sûr, je dispose d'un répertoire sans fin. Que désirez-vous » Le vieux pasteur s'est dit que c'était son moment. Il a dit, « Qu'en est-il du psaume 23 ?» Et l'acteur a dit, « Eh bien, c'est une requête inhabituelle, mais il s'avère que je le connais, et je le ferai à une condition, que vous le fassiez, après que je l'ai fait. » Eh bien, le vieux pasteur n'en demandait pas autant. Cependant, à cause du Seigneur, il dit, « C'est d'accord. » L'acteur se mit debout et récita le psaume 23, avec une grande justesse, une voix magnifique, lyrique, une formidable interprétation. Et il termina, et tout le monde applaudit. Le vieux pasteur se mit debout, et de sa voix cassée, parcourut le psaume 23, d'une manière humble. Et lorsqu'il eut fini, il n'y avait pas un seul œil sec dans la salle. Et ressentant l'émotion du moment, l'acteur se mit debout et dit, « Je crois que je comprends la différence entre la réponse que vous m'avez faite et celle que vous lui faites. Vous avez applaudi pour moi. Vous avez pleuré pour lui. La différence est, je connais le psaume, tandis qu'il connaît le berger. Et s'il y a une seule chose que l'Église doit être, c'est qu'elle doit être l'assemblée des personnes qui connaissent le berger, n'est-ce pas ? C'est cela une Église. Tout ce qui est en deçà n'est pas une Église. Beaucoup de gens connaissent les psaumes. Ils ne connaissent pas le berger. Nous avons donc toujours été engagés à la prédication de la doctrine du salut. Nous avons toujours parlé de la vérité du péché de l'homme et du besoin d'un sauveur. Nous avons traité avec les fausses sécurités et appelé les gens à une foi authentique en Christ. Nous avons mis l'accent sur le baptême. Nous avons souligné l'évangélisation parce que l'Église, ce sont ceux qui sont appelés, appelés avant et appelés hors. Nous ne sommes pas une Église si nous ne sommes pas rachetés. Troisièmement, nous sommes appelés deux. Nous sommes appelés deux, verset 4. Nous devons être saints et irrépréhensibles devant lui. Cependant, nous n'avons pas uniquement été appelés hors du monde, mais nous avons également été appelés du monde, dans le sens de la sainteté. Il s'agit de notre sanctification. Notre sanctification. 1 Pierre 1,15. La Bible dit « Soyez saints comme je suis saint ». Nous sommes appelés à être séparés du monde. Nous sommes appelés à ne pas nous compromettre. L'Esprit nous a dit de ne pas nous souiller avec le monde. Nous devons être, dit Paul, sans défaut et sans tâche. Il dit dans 2 Corinthiens « Je désire présenter l'Église au Christ comme une vierge chaste. Dieu nous a appelés à la sainteté, à la pureté, à la ressemblance à Christ, à la vertu. Et cela a été notre message. Nous prêchons à ce sujet. Nous prions à ce sujet. Nous en parlons. Nous sommes appelés à manifester la sainteté de notre Père. Nous devons rayonner la sainteté de notre Sauveur. Nous devons révéler la sainteté de l'Esprit qui demeure en nous. Nous devons nous séparer du monde. Nous devons tuer les œuvres de la chair, est-il dit dans Colossiens 3. Nous ne devons donner aucune attention à la chair, est-il dit dans Galates, chapitre 5. Nous ne devons pas aimer le monde, 1 Jean, chapitre 2. Nous avons été appelés à la sainteté, et c'est ce que nous avons prêché, et prêché à travers les années, que nous devons être un peuple saint. Nous sommes appelés deux. Quand Dieu appelle, il appelle avant, il appelle or, et il appelle deux, la sainteté. Nous avons mis l'emphase sur l'humilité. Nous avons insisté sur la confession du péché. Nous avons souligné la discipline d'Église. Nous avons exclu des gens de notre Église. Nous avons insisté sur l'adoration d'un Dieu saint, l'exaltation d'un Dieu saint. Nous nous sommes concentrés sur la nature de Dieu, le caractère de Dieu, les attributs de Dieu, afin qu'en voyant la sainteté de Dieu, nous puissions vivre dans sa crainte. Cependant, lorsqu'un groupe est impie, il pourrait lui-même se nommer Église. Mais ce n'est pas une Église étant donné qu'elle doit être composée des personnes appelées d'eux, si elles sont une vraie Église. Montrez-moi une Église qui ne prêche pas sur le péché, et je vous montrerai une Église qui est pleine d'impiété. Et ce n'est pas une Église au sens complet du terme. Nous sommes constamment appelés à la table du Seigneur ici. Pourquoi? Parce que nous devons nous confronter au constant examen de soi, de la Sainte Seine, tandis que nous regardons au plus profond de nos cœurs, avec le projecteur de l'Esprit de Dieu, pour voir s'il y a quelque chose entre lui et nous. Nos récentes communions ont illustré comment nous avons traité avec le péché, dans une tentative de purger et de purifier l'Église. Nous sommes appelés à être un peuple saint. L'Église ne peut pas tolérer l'impiété. Vous ne pouvez pas prêcher contre le péché et en même temps ne rien faire à ce sujet, à moins que les gens ne pensent que prêcher et vivre soient deux choses différentes et sans aucun rapport. Nous avons recherché la sainteté dans les vies des dirigeants, dans les vies de ceux qui suivent. Dans 1 Thessaloniciens 5,23, Paul nous invite avec les paroles « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé, irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelait est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Il dit « Je prie que vous soyez irrépréhensible. » Et nous avons par conséquent recherché la sainteté. Nous avons recherché à voir Dieu, afin de craindre Dieu, de voir le Christ, pour que nous puissions craindre le Christ. Nous avons vu comment Jésus a traumatisé les gens, comment Jésus les a fait craindre lorsqu'ils ont vu sa gloire, lorsqu'ils ont vu sa sainteté. Nous sommes une Église. C'est de cette manière que vous nous expliquez. Appelez avant le monde, appelez hors du monde, et appelez du monde. Et il n'y a aucune place pour la compromission. C'est notre singularité. Nous sommes ceux qui sont appelés, selon son dessein. Et c'est cela son dessein. Quatrièmement, nous sommes appelés à. Nous ne sommes pas seulement appelés or et deux. Nous sommes également appelés à. C'est notre identification. Et à quoi sommes-nous appelés? Regardez au verset 4, c'est beau. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il est dit au verset 4, en lui, devant lui et pour lui. Au verset 5, au verset 3, ça se termine avec deux mots, en Christ. La fin du verset 6, il nous a rendus agréables, en son bien-aimé. Version Martin, à présent remarquez ceci, nous sommes en Dieu, nous sommes en Christ, c'est notre singularité, c'est notre identification, appelés à lui. Le milieu du verset 5, nous adoptés à soi par Jésus-Christ. Version Martin, nous ne sommes pas une organisation religieuse constitué de gens attachés à un certain nombre de règles. Nous ne sommes pas ceux qui ont été instruits selon un modèle religieux donné. Nous ne sommes pas ceux qui adhèrent à un certain genre de rituel ou routine. Nous sommes ceux qui sont en Christ, en Dieu, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain, ou Silas, et Timothée, écrivent à l'église des Thessaloniciens, « Écoutez, qui est en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà une église. En d'autres termes, nous sommes appelés à une identification intime avec Dieu lui-même, dans une union personnelle, tellement cruciale. Nous sommes dans une merveilleuse communion. Dans 1 Jean 1:3, Jean dit, « Or la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Version Semeur. Nous sommes dans une communion inter-trinitaire. Lisez Jean 17, où Jésus prie pour que nous puissions être un avec lui, comme il est un avec Dieu. Et il nous met tous dans le même paquet. 1 Corinthiens 6, 17 dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Nous avons été rendus intimes. Intimes à quel point? Nous sommes adoptés en tant que fils. Au verset 5, nous sommes en Christ co-héritiers du royaume de Dieu. Vous savez, l'Église n'est pas un groupe que vous rejoignez en signant votre nom. Il ne s'agit pas d'une espèce d'entreprise humaine qui adhérerait à un système d'enseignement. Nous sommes sauvés pour entrer dans une relation personnelle, intime, unique avec le Dieu vivant, à travers Jésus-Christ. Quand vous parvenez au salut, la Bible dit dans Romains 6, vous vous identifiez avec Jésus-Christ, vous mourrez avec Christ, vous ressuscitez pour marcher en nouveauté de vie. Paul a dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est notre union. Nous sommes différents des systèmes religieux. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous voyons tant de personnes anciennement catholiques arriver et visiter notre Église et venir à Christ. Ils savent ce que sont les systèmes religieux, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et les gens sortent de tout genre d'autres sectes et ismes, parce qu'ils ont été dans des systèmes de religion, mais n'ont jamais rencontré Dieu, et ils ne s'y trouvent aucune intimité. Notre Église est une Église qui est engagée à être appelée à Christ, si bien que nous célébrons notre union avec lui. Vous savez, en regardant ma propre vie, je serai très honnête avec vous. Je ne sais pas où s'arrête John MacArthur et où commence Christ. Cependant, quand je pêche, je sais de qui il s'agit, mais juste en examinant ma vie, et en faisant les choses et en servant le Seigneur, je ne sais pas où je m'arrête ni où il commence. Je suis comme Paul, je suis crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Christ. Je veux dire, c'est ce qu'il fait. C'est lui et moi, et c'est moi et lui, et je ne sais pas où l'un commence et l'autre s'arrête. Vous non plus ne savez pas. Vous vous contentez de mener votre vie et vous voyez Dieu à l'œuvre, et Christ, et c'est très naturel pour vous de parler au Seigneur et de ressentir sa puissance, et de le voir répondre à vos prières, et de ressentir qu'il vous dirige et qu'il vous guide, et ressentir son réconfort dans votre vie. Et nous nous sommes donc rencontrés et avons partagé à ce sujet. Nous en avons parlé et avons prié à ce sujet. Et nous avons nos petites études bibliques intimes où nous parlons de ce que Jésus-Christ représente pour nous. Nous ne croyons pas que Dieu soit une espèce d'ogre cosmique qui attend de nous tomber dessus si nous brisons une seule de ses règles. Nous avons une relation d'amour intime avec lui. Un auteur a dit, « Plus proche, tellement plus proche de Dieu. Je ne saurais être plus proche, car en la personne de son Fils, je suis tout simplement aussi proche que lui, plus cher, tellement plus cher pour Dieu. Plus cher, je ne pourrais l'être. » Car en la personne de son Fils, je suis juste aussi cher que lui. Ainsi, nous sommes appelés à une douce intimité avec Jésus-Christ, une relation chaleureuse, personnelle, vivante avec Dieu. C'est cela une Église. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne nous comprenez pas. Appelez avant, appelez hors, appelez deux, appelez à. Cinquièmement, nous sommes appelés sous. Nous sommes appelés sous. Nous sommes ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est ce qu'est une Église, et une partie de notre appel, c'est que nous sommes appelés sous. Que voulez-vous dire par là? Je parle de la révélation. Nous avons parlé de l'élection, de la rédemption, de la sanctification et de l'identification. Voici la révélation. Verset 8. Après avoir été rachetés. Verset 7. que Dieu a répandu abondamment sur nous. C'est ce que signifie ce verbe, par toute espèce de sagesse. Et ce terme, Sophia, est à voir avec la sagesse des choses éternelles, comme la vie et la mort, Dieu, l'homme, le temps et l'éternité. Dieu a abondamment répandu tout cela sur nous, ainsi que l'intelligence. C'est concret. La sagesse des choses terrestres, comme la résolution des problèmes. Dieu nous a accordé la vérité profonde en ce qui concerne les choses éternelles. Il nous donne des implications pratiques en termes de vie quotidienne. Et il nous a donné tout ceci d'une manière abondante. Le verset 9 dit « Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. » À présent, vous me dites, où est-ce que Dieu nous a révélé sa volonté? Où? Dans la parole de Dieu. Ici même, dans ce livre, la Bible. Le Nouveau Testament constitue la révélation du mystère de sa volonté. Nous disposons de la parole de Dieu et nous sommes appelés sous elle, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à l'obéissance. Paul dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Nous sommes appelés à nous soumettre à la parole de Dieu. Nous sommes sous une autorité. Ce n'est pas nous qui planifions notre propre parcours. Notre destinée ne résulte pas de nos propres rêves. Vous savez, lorsque nous nous retrouvons pour planifier, ou que nous nous réunissons pour prier, ou que nous nous retrouvons pour travailler dans l'Église, il y a une chose centrale dans notre pensée. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de cette question? Que dit la parole de Dieu? C'est le centre de tout ce que nous faisons. J'ai reçu récemment un compliment. Je pense qu'il s'agit d'un compliment. J'étais supposé me rendre à un déjeuner de pasteur, et je n'y suis pas allé. Et quelqu'un s'est levé au déjeuner et a dit « Je pense que je sais pourquoi MacArthur n'est pas là. Il n'a pas réussi à trouver une route biblique pour venir ici. » Eh bien, je pense que c'était un compliment. Je pense qu'il m'a bien cerné. Je suppose que la réputation de l'Église de la Communauté de la Grâce, c'est qu'il vaudrait mieux que ce soit biblique, sinon ça ne les intéresse pas. Je pense que c'est génial. Vous savez, je suis vraiment consacré à la parole de Dieu. S'il y a eu quoi que ce soit qui ait jamais caractérisé l'Église de la Grâce au fil des années, c'est bien ceci, n'est-ce pas? La parole de Dieu. Vous savez, lorsque j'étais au séminaire, au moment où je suis parvenu à ma dernière année de séminaire, j'étais une personne très frustrée, parce que je voulais comprendre la Bible. Pendant des années, je savais ce que disait la Bible. Je ne savais juste pas ce qu'elle signifiait par ce qu'elle disait. J'étais capable de la lire. Je veux dire que je l'avais assez bien lue. Je ne la comprenais pas toujours et ne savais pas ce qu'elle signifiait. Et cela me frustrait, parce que la parole de Dieu était là et je voulais savoir ce qu'elle voulait dire. Et j'ai tout simplement, la raison pour laquelle je suis allé au séminaire était en réalité pour avoir les outils qui allaient me permettre de savoir ce qu'elle voulait dire. Les gens disent « Eh bien, quel était votre objectif en allant au séminaire ?» Mon objectif était d'obtenir les outils nécessaires à la compréhension de la Bible. Je n'ai pas pensé à exercer un ministère à qui que ce soit d'autre à ce niveau-là. Je voulais comprendre la parole de Dieu, et si Dieu me donnait un ministère, ce serait la cerise sur le gâteau. J'ai dit au pasteur à notre récente conférence des bergers, « La joie du ministère n'est pas de vous prêcher, ça c'est du boulot. » La joie du ministère, c'est l'étude où j'apprends à savoir ce que Dieu veut dire par sa parole et, par conséquent, à mieux le connaître. C'est juste, c'est seulement la crème fouettée du dessus que je reçois en vous disant ce que j'ai appris. Et vous n'en recevez qu'un peu, vous ne recevez que le sommet de l'iceberg. Mais j'ai toujours voulu apprendre la parole de Dieu. Et au séminaire, j'ai commencé à me procurer les outils. Et j'ai tout simplement commencé à avoir faim. Et j'ai juste commencé à désirer dévorer la parole de Dieu, pour pouvoir l'apprendre, et l'apprendre encore, et le fait de pouvoir l'enseigner ensuite était une joie spéciale. Et je crois que c'est ce qu'une église doit être. Une église doit être un endroit où les gens sont appelés, sous la parole de Dieu. Quand je suis venu ici, ils m'ont demandé si je voulais bien venir. J'ai prêché le dimanche, après que le pasteur Elvie soit allé auprès du Seigneur. Et ils ont dit, « Voulez-vous bien revenir ?» et présenter votre candidature pour être notre pasteur. Et j'ai dit d'accord, et c'est ce que j'ai fait. Et le dimanche, où je suis venu pour présenter ma candidature, j'ai décidé que j'allais prêcher sur Romains 7. C'est un chapitre robuste. J'ai dit, je vais le faire, c'est sur mon cœur, je vais leur enseigner Romains 7. Alors j'ai juste ouvert ma Bible, je n'étais pas conscient de ce qui se passait, Et j'ai continué, et j'ai juste prêché Romains 7 jusqu'au bout. J'ai tout simplement passé un grand moment, et j'ai simplement eu ce fardeau de sortir cela, et d'expliquer Romains 7. Formidable! Vous savez pendant combien de temps j'ai parlé cette première fois? 1 heure et 35 minutes. Ma femme a dit, « Eh bien, tu peux dire adieu à cette église. Et si la nouvelle se répand, tu n'auras jamais aucune autre église ailleurs. Donc, vous ne devriez pas vous plaindre. J'ai écourté les messages, et vous devriez donc remercier Dieu d'être là, 25 ans après le début de l'église, ou 13 ans, en tout cas, depuis que je suis là. Mais vous dites, pourquoi avez-vous fait cela? Je veux dire, ne vous préoccupiez-vous pas de la garderie? Écoutez, la seule chose à laquelle j'étais sensible, vous savez, était que je passais un moment formidable. Vous savez ce que j'ai découvert? J'ai découvert qu'en faisant cela, les gens avaient l'esprit de se soumettre à la parole de Dieu. Ils sont venus me voir par la suite et ont dit, « C'est ce que nous voulons, mais pourriez-vous écourter un tout petit peu? Et, si je sais que j'aurai la possibilité de prêcher ici plus d'une fois, je peux écourter autant que vous voulez, d'accord? » Et l'engagement à ceci de cette église, au cours de son histoire, a été d'être sous la parole de Dieu. Sous la parole de Dieu! La toute première fois que j'ai rencontré un ancien ici, il m'a parlé de l'église et d'être pasteur. Il a dit, « Nous sommes prêts à servir. Nous voulons savoir ce que Dieu attend de nous. L'église est un groupe qui est appelé sous l'autorité de la parole de Dieu. » Et ainsi, le slogan de cette église, au fil des années, a été le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et comment perfectionnez-vous les saints? Toute écriture est inspirée de Dieu. Afin que l'homme de Dieu, il dit à la fin de ce verset, soit quoi? Accompli et propre à toute bonne œuvre. Le perfectionnement des saints est l'œuvre de la parole. Je voulais vous donner l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et il ne s'agit pas d'être simplement propriétaire d'une Bible. Il est question de comprendre la Bible pour pouvoir l'utiliser comme une arme et une défense. L'engagement a donc été d'enseigner la parole de Dieu afin que nous soyons sous l'autorité. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Vous savez, l'objectif que j'ai eu, et je vais révéler un secret à ce niveau, mais l'objectif que j'ai eu dans mon ministère ici était d'enseigner la parole de Dieu, de manière à ce que vous vous soumettiez consciemment à l'autorité de la parole de Dieu en général, de sorte que chaque fois qu'on introduit quoi que ce soit, en dehors de la parole de Dieu, les gens réagissent instantanément, parce qu'ils seront déjà totalement soumis. Vous savez, un pasteur a dit à une conférence de pasteurs à laquelle je me suis rendu une fois, « Vous savez, votre point de vue sur un certain sujet, si j'essayais de dire à mes gens de faire cela, ils me jetteraient hors de l'église. » J'ai dit, « Mais c'est biblique. Cela importerait peu pour eux. Eh bien, si cela n'a pas d'importance pour eux que ce soit biblique, alors ils n'ont pas la bonne perspective de l'autorité de la parole de Dieu, non? Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est « Est-ce biblique ?» Vous savez, les questions qu'on me pose ne sont pas « Eh bien, pourquoi avez-vous enseigné cela ?» Même si c'est dans la Bible, c'est blessant. Lorsque les gens me posent la question, qui me met dos au mur, c'est celle-ci. Êtes-vous certain que cela soit dans la Bible? Je suis content qu'ils posent ce genre de questions. C'est notre autorité. Nous sommes appelés avant le monde. Nous sommes appelés hors du monde. Nous sommes appelés du monde, au Seigneur, et sous la parole. Sixièmement, nous sommes appelés avec. Nous sommes appelés avec. Ceci est très important. C'est l'unification, verset 10. Il est dit que le but ultime de Dieu, et bien sûr, cela fait allusion à la plénitude des temps, la formidable fin des temps, la plénitude de l'achèvement de l'histoire de la rédemption. Nous sommes appelés au point de réunir toutes choses en Christ. L'objectif ultime de Dieu est de rassembler toutes choses en Christ, en une, et l'Église constitue l'emblème de tout cela maintenant, n'est-ce pas? Nous sommes appelés avec. Vous savez, j'ai grandi à une époque où il y avait énormément d'isolement spirituel. Tout le monde gardait en quelque sorte sa spiritualité pour lui-même. On n'en parlait tout simplement pas. On revêtait juste le sourire chrétien, vous savez. On portait la Bible à glissière, et on se rendait à l'école du dimanche, et faisait sa chose. Et on ne comprenait pas vraiment. On ne laissait rien sortir. On ne donnait accès à son cœur ou à son âme à personne. Et la communion était, vous savez, du punch rouge et des biscuits rassis, et de petites vieilles dames coiffées de chignons, servaient des beignets et du café. Je veux dire que c'était tout. Il n'y avait pas. il n'y avait rien de profond à ce sujet. Cependant, nous avons été appelés ensemble à une merveilleuse unité, une merveilleuse communion. Appelés avec, c'est notre identification, ou plutôt notre unification. Et grâce à fixer ses regards sur ce genre d'unité. Nous croyons en Philippiens, chapitre 2, où Paul dit « Ayez une même pensée ». Comment allez-vous avoir la même pensée? Il s'agit de l'unité. Eh bien, vous devez être du même amour. Vous devez aimer les gens. Comment allez-vous être capable d'aimer les gens? Il faut laisser chacun veiller, non sur ses propres affaires, mais sur les affaires des autres. Qu'est-ce que c'est? L'humilité. La pensée de Christ qui s'est lui-même humilié. Ainsi, ce que vous apprenez est, si nous allons être un, nous devons nous aimer les uns les autres. Et si nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons être humbles. Car tant que chacun se préoccupera de lui-même, il n'y aura aucun échange, donner-recevoir. Permettez-moi de vous dire quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours mis l'accent sur le péché. Nous nous sommes toujours concentrés sur la faiblesse humaine dans la parole de Dieu, pour que nous puissions savoir combien nous sommes dans le besoin, pour éviter que nous nous fassions des illusions et pour qu'il y ait une humilité authentique dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle nous ne prêchons pas le, ce que j'appelle l'évangile du développement personnel, ou le message machiste. Vous allez bien. Vous allez tous bien. Vous savez, restez positif. Soyez quelqu'un. Ce genre de choses. Montrez-moi une église où ce message est prêché, et je vous montrerai une église qui ne connaît pas la signification de la communion, parce que tout le monde y est pour lui-même, et pas pour qui que ce soit d'autre. Montrez-moi une église où on parle d'humilité, et je vous montrerai une église où les gens peuvent s'aimer les uns les autres. Et nous sommes appelés avec, à nous aimer les uns les autres, à donner les uns aux autres. C'est l'une des choses qui ont caractérisé cet endroit. Si vous voulez analyser grâce, nous sommes une église, c'est tout. Et une église est un groupe appelé. Il y a toujours eu cet esprit qui amène à donner, à s'aimer, à soutenir et à prendre soin. Je me souviens de grand-ma Kelly, France Kelly, qui est décédée il y a quelques années, et elle était la guerrière de prière pour mettre un terme à tout dans cette église. Une femme précieuse qui avait l'habitude de venir tout le temps me frictionner le cou, même lorsqu'elle était dans ses 90 ans. Extraordinaire. Des mains solides, vous savez. Elle s'inquiétait pour moi alors. Elle voulait me faire des frictions et détendre mon cou. Ainsi, lorsque j'étais occupé, elle arrivait et m'aidait à me détendre un peu. Et elle priait, vous savez. Eh bien, elle est allée à l'hôpital. Trish et moi étions allés la voir à la maison, et on a finalement dû la conduire à l'hôpital. Elle allait mourir, et elle était à l'unité de soins intensifs à l'hôpital. Et alors, je suis allé la voir. J'ai dit à la dame à l'accueil, « Où est-elle ? » Et elle a dit, « Aux soins intensifs. » Alors je suis monté dans l'ascenseur. J'ai descendu le hall et frappé à la porte. Et une infirmière cynique est venue, et elle a dit, « Que puis-je faire pour vous ?» J'ai dit, « J'aimerais voir France Kelly, s'il vous plaît. » Elle a dit, « Vous aussi ?» J'ai dit, « Eh bien oui. » Elle a dit, « Vous savez, vous allez tuer cette dame si vous continuez d'envoyer toutes ces personnes ici. » Elle a dit, « Ils viennent de passer toute la journée ici, et ce n'est tout simplement pas bien. » J'ai dit, « Eh bien, je suis le pasteur. » Elle a dit, « J'ai déjà aussi entendu cela. » Alors j'ai dit, « Eh bien voyons, j'ai autre chose. » « Je suis le président. Cela suffit-il ? » ?»« Non. » Alors j'ai dit, « Eh bien, je suis. » »« Cela ne réduit pas ma position de pasteur, n'est-ce pas ? » ?»« Je reste le pasteur de l'église. Je pense qu'elle voudra me voir. Pourriez-vous lui demander ? » ?»« Vous êtes sûr que vous êtes le pasteur ? » ?»« Eh bien, je suis l'un des pasteurs de l'église. Je vais lui demander. Je suis donc entré pour la voir. Mais ça a toujours été ainsi. Tout le monde subvenait aux besoins des autres. » C'est parce que l'accent est mis sur l'humilité authentique. Et c'est de là que naît l'amour, étant donné que nous ne sommes pas un groupe de personnes assises là et pensant. Comment pouvons-nous améliorer notre image personnelle? Nous frappons. Nous sommes assis là, à penser. Comment pouvons-nous nous attaquer à nos échecs? Et comment pouvons-nous donner à ceux qui ont besoin de nous? C'est une église. L'église est un groupe de personnes appelées les unes avec les autres. Les gens qui sont là ne sont pas des spectateurs. Nous résistons à cela, et c'est la raison pour laquelle nous avons des groupes et des troupeaux de communion, ainsi que des études bibliques. Nous voulons que vous veniez ensemble. Nous ne voulons pas que les gens s'entassent, en marge, pour se contenter d'être spectateurs, d'observer. Nous voulons la responsabilité, le ministère et l'amour, et nous sommes engagés à enseigner des gens pour qu'ils exercent un ministère, et c'est de cette manière que nous suscitons des missionnaires et des pasteurs. C'est pour cela que nous avons envoyé des missionnaires et peut-être près de 20 pasteurs vers d'autres églises, étant donné que nous développons des personnes qui exercent un ministère les uns aux autres. Les foules ne sont jamais satisfaites, jamais. L'objectif, ce sont des gens qui exercent un ministère. Eh bien, permettez-moi de vous en donner deux autres. Ensuite, je vais vous laisser partir. Juste très vite. Nous sommes appelés à. Nous sommes appelés à. Regardez au verset 11. Il est dit, « Nous sommes aussi devenus héritiers. » Verset 14 mentionne encore notre héritage. Maintenant, qu'est-ce que cela dit? Pierre appelle cela un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Nous sommes un groupe engagé à la glorification. Nous avons parlé de l'élection, la rédemption, la sanctification, l'identification, la révélation, l'unification, et à présent, la glorification. Que voulez-vous dire par là? Je veux dire ceci. Notre objectif, c'est l'avenir, n'est-ce pas? Notre objectif, c'est le futur. Nous ne sommes pas citoyens de ce monde. Philippiens 3:20. Notre citoyenneté n'est pas ici. Elle est d'en haut. Nous ne sommes pas terrestres. Nous ne sommes pas liés au système. Nous avons été faits héritiers d'un héritage sans fin et éternel. Et c'est notre cible. Nous sommes une église, et une église est appelée à la gloire. Nous sommes liés à un héritage éternel. Nous ne sommes pas bloqués dans le monde. C'est pour cette raison que nous ne défilons pas à l'hôtel de ville. C'est pour cette raison que nous ne prêchons pas un message purement politique, ni un message purement social. C'est pourquoi nous ne travaillons pas avec des agences humaines. Nous sommes le royaume de Dieu qui fraye son chemin par la puissance du Saint-Esprit à travers le monde des ténèbres. Et nous avons une vue glorieuse du royaume qui vient. C'est pour cette raison que dans Colossiens 3, il est dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, d'accord ? Je veux dire que nous attendons que Jésus vienne. Nous attendons que son royaume soit bâti. Nous n'investissons pas notre vie et toutes nos possessions dans ce monde éphémère. Je crois que c'est pour cela que l'Église de la Grâce a été capable d'envoyer des missionnaires. Je crois que c'est pour cela que nous avons été capables de disposer d'un magnifique bâtiment comme celui-ci. Nous avons été en mesure d'avoir les ministères, parce que les gens ont donné. Et la raison pour laquelle ils ont donné, c'est parce qu'ils ne détiennent pas ces choses pour les gaspiller dans le système mondain passager. Je me souviens lorsque nous avons construit ce bâtiment. Le premier dimanche où nous sommes entrés ici, il venait d'être payé, ce même dimanche. Tout a été payé. Et je me souviens comment cela a été payé. Je me rappelle, lorsque je me suis rendu à mon bureau de l'autre côté du campus, et que j'ai vu un petit sac en papier devant la porte. L'un de ces sacs de shopping de Ralph's Market, le grand modèle. Et j'ai pensé que quelqu'un avait laissé des fruits ou quelque chose, comme cela arrive souvent. Et alors, je me suis penché pour le ramasser, et j'en étais incapable. J'ai failli casser mon bras. Je ne pouvais pas le soulever du sol. J'ai ouvert de dessus, et il était rempli de barres d'argent. Il y avait une petite note qui disait « C'est pour investir dans l'éternité ». Et ensuite, peu de temps après, un jeune couple qui avait épargné $1,000 pour leur lune de miel est entré dans mon bureau pour dire « Nous avons décidé que nous voulons le donner au Seigneur ». Et ils ont ouvert leur poche et ont tout déposé sur mon bureau. Pourquoi est-ce que des gens feraient cela? Pour quelle raison est-ce qu'un homme ou une femme, ou qui que ce soit, me donnerait tout cela? Je n'ai jamais su qui avait donné les barres d'argent. Pourquoi est-ce qu'un couple donnerait $1,000, l'argent prévu pour leur lune de miel? Pourquoi? Parce qu'il voit l'éternité. C'est dit. Il voit le royaume de Dieu et le glorieux héritage éternel. Il ne se limite pas aux choses terrestres, et l'Église est une Église qui est appelée à cet héritage. Et c'est pourquoi les gens de l'Église de la Communauté de la Grâce ont été libres d'investir dans l'éternité, et non liés par le temps. Nous attendons une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Notre message, c'est que Jésus vient. C'est notre grande espérance. Finalement, nous sommes ceux qui sont appelés selon son dessein, et nous sommes appelés pour. Appelés pour, que voulez-vous dire? Eh bien, c'est notre proclamation. Il est dit au verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce. Il est dit au verset 12, « Afin que nous servions la louange de sa gloire. » Il est dit au verset 14, « À la louange de sa gloire. » Écoutez, bien-aimés, très simplement, et nous allons terminer. Nous avons été appelés dans le but de la proclamation. Et qu'est-ce que nous proclamons? Nous louons sa gloire. L'Église existe pour être à la louange de la gloire de Dieu. Le monde doit regarder et dire, « Oh, regardez ce groupe de personnes. Quel Dieu plein de grâce que le leur. Ne devrait-il pas être glorifié en nous? C'est notre proclamation. Il y a un sens dans lequel nous lui proclamons sa gloire. Il y a un sens où nous proclamons sa gloire aux saints anges. Il y a un sens où nous proclamons sa gloire au monde autour de nous. Nous sommes pour la louange de sa gloire. Le point est celui-ci, braves gens. Tout cela revient à ceci. Vous ne pouvez pas nous comprendre, à moins de comprendre la gloire de Dieu, puisque nous n'en sommes que sa manifestation. Nous ne nous prêtons pas facilement à l'analyse. Plus que toute autre chose, je pense que ce dernier point a été le centre de mon cœur. Le plus grand thème dans la Bible est la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous existons. En fait, chaque fois, Clayton me fait chanter cette même chanson sur la glorification de Dieu. D'un côté, je sais que les gens pensent que je dirige une opération avec un seul cheval. Et d'un autre côté, c'est que mon cœur dit que c'est la chose la plus importante. Que Dieu soit glorifié. C'est l'unique poste de contrôle de ma vie. Je me pose une seule question dans ma vie quotidienne. Lorsque j'arrive à un carrefour, une question simple. Cela va-t-il glorifier Dieu? Un poste de contrôle simple pour tout dans ma vie. Parce que nous devons être à la louange de sa gloire. Matthieu 5, 16. Notre Seigneur formule cela en ces termes. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils croient. Glorifie votre Père qui est dans les cieux. Depuis 25 ans, Dieu permet à cette Église d'être à la louange de sa gloire. Nous avons été appelés pour la proclamation, et nous avons proclamé sa gloire. Vous dites, qu'en est-il des 25 prochaines années, John? Vous savez ce que je crois vraiment. Je crois que nous n'avons construit que le socle. Je n'ai pas arrêté de penser à cela pendant qu'on faisait décoller la navette spatiale Columbia. C'est comme avec grâce. Nous avons construit l'engin et venons juste de le lancer. Le futur est infiniment plus grand que le passé. Mais puis-je vous donner un avertissement? Dieu nous a appelés à l'existence et il peut tout aussi rapidement nous faire disparaître. Nous sommes son Église. Il contrôle notre destinée. Et si vous montez et descendez les rues d'Amérique en voiture, vous voyez des témoignages muets du fait qu'il arrive que Dieu éteigne la bougie. Lisez Apocalypse 2 et 3. De formidables églises. Et Dieu a dit, « Sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place. » Ça peut arriver. Et ça arrivera si grâce cesse d'être une église, un peuple appelé or. Si nous nous montrons fidèles à être une église conforme à la définition de Dieu, nous serons la louange de sa gloire, jusqu'à ce que Jésus revienne. Baissons la tête pour la prière. Notre Père, nous rassemblons à présent nos cœurs pour reconnaître que nous sommes appelés selon ton dessein. C'est ce que nous sommes. Rien de moins, rien de plus. Nous sommes appelés avant. Aide-nous à nous rappeler que nous sommes l'Église que Christ a construite. Nous sommes appelés or. Nous devons avoir une congrégation rachetée. Nous sommes appelés dû. Nous devons, de tout notre cœur, rechercher la sainteté sans compromis. Nous sommes appelés à. Nous devons intimement et personnellement être consacrés à Jésus-Christ, le Seigneur vivant. Nous sommes appelés sous. Nous devons délibérément nous soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Nous sommes appelés avec. Nous devons continuer de prendre des engagements sincères et profonds les uns envers les autres. Nous sommes appelés à. Nous devons poursuivre l'éternité et non le monde éphémère. Et nous sommes appelés pour. Nous devons être à la louange, la gloire de ta grâce. Père, merci pour 25 années de fidélité à bâtir une église, une véritable église, ton église. Gardons la lumière allumée. Puissions-nous être ton église jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous prions en son nom. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.